Europe 1.
Et pour débuter cette émission, nous accueillons Karine. Bonsoir Karine.
Bonsoir Olivier.
Bonsoir. D'où nous appelez-vous et quel âge avez-vous Karine?
Je vous appelle de Lisieux, dans le 14, Calvados.
Oui.
Et j'ai 46 ans.
D'accord. De quoi voulez-vous me parler, Karine?
Alors, je vais vous parler de mes métiers. Je fais deux emplois. Et j'ai deux casquettes. Et en fait, c'est par rapport à des aléas de la vie qui m'ont amené en fait, à aujourd'hui exercer deux professions. Voilà.
Les aléas de la vie qui sont causés par quel type de situation, dites-moi.
Alors, mes parents sont agriculteurs donc dans le Calvados.
Oui.
Et j'ai deux frères, dont un qui faisait des études en fait, pour reprendre l'exploitation agricole. Et en fait, arrivé à l'âge de 20 ans, au niveau de son bac, il a été victime d'un accident de voiture. Et ce projet en fait, de reprise de la ferme a été amené à être un échec. Quoi. C'était impossible pour lui de reprendre. Ce qui fait que, arrivé à la retraite, mes parents sont arrivés à la retraite et derrière, il n'y avait plus de repreneurs. Et s'est posé la question à ce moment-là de savoir qui pouvait reprendre pour continuer en fait. De garder le patrimoine et puis surtout essayer de garder cette exploitation que mes parents ont eu beaucoup de difficultés à acquérir au fil du temps. C'était des moments difficiles. Il a fallu quand même faire beaucoup de concessions pour acquérir ce foncier.
Oui.
Et il aurait été dommage en fait pour nous et bien de laisser partir ce patrimoine si difficilement acquis.
Oui, et que vos parents ont dû beaucoup batailler pour le garder, je suppose.
Oui, oui, exactement, c'est ça. Ça a été vraiment toute leur vie, un métier de labeur pour pas grand-chose, et en fait, honorer leur crédit pour acquérir leur foncier.
Très bien. Alors,
et du coup, y a une attache particulière en plus sur cette exploitation. Mes grands-parents étaient exploitants sur la même exploitation. Il y a vraiment un attachement familial. Ils ont exercé toute leur vie sur cette ferme. Et ensuite, au moment où eux sont partis à la retraite, mes parents ont repris. Mes grands-parents étaient locataires. Et le propriétaire a décidé de vendre au moment où mes parents ont repris. Et pour eux, c'était un peu difficile. Ils ont hésité à reprendre. Parce qu'à ce moment-là, dans les années 70, le foncier était très très cher et les taux étaient très élevés. Alors ils ont quand même choisi de rester, mais tout en sachant que derrière, ça allait être très compliqué financièrement. Et donc ça a été le cas. Ils ont réussi... Ils ont été jusqu'au bout et ils sont parvenus à honorer leur contrat. Mais derrière ça, ça a été quand même beaucoup de sacrifices pour tout le monde. Quoi. Et donc, c'est vrai que c'était malheureux qu'arriver à la retraite par rapport à l'accident de mon frère qui n'est pas de continuité. Alors à ce moment-là, s'est posé la question de savoir donc, qui allait reprendre. Et en fait, mon autre frère n'était pas intéressé.
Oui.
Et j'ai décidé du coup de reprendre l'exploitation, tout en sachant que j'exerçais déjà le métier d'infirmière.
Vous exerciez déjà le métier d'infirmière. Donc oui. Vous avez décidé de reprendre l'exploitation en même temps que vous exerciez donc ce métier.
C'est ça, voilà.
Et sans arrêter, en fait.
Oui, exactement. En fait, j'exerce depuis... 2002, le métier d'infirmière, après avoir fait une formation à Paris. Et je ne pensais pas un jour, en fait, devoir reprendre l'exploitation. Je pensais faire uniquement ce métier-là, et voilà.
Mmh.
Et donc, j'ai dû concilier la reprise. Et pour reprendre l'exploitation, il a fallu aussi faire une formation en parallèle de mon travail d'infirmière. Donc, il a fallu faire une année de formation, on l'appelle le BPROA, et derrière ça, constituer un dossier pour la reprise qui est assez lourde d'ailleurs, et puis se lancer, quoi.
Comment ça s'est passé au début, alors ? Dites-moi.
Alors, au début, donc, alors, j'exerçais donc mon métier d'infirmière de nuit, et je faisais des formations à distance pour obtenir donc, ce fameux BPREA à un lycée agricole. Et donc, après, donc, j'ai constitué le dossier pour la reprise, et après, ma mère, après son départ à la retraite, aussitôt, j'ai repris l'exploitation. Et tout ça en conjuguant le travail de l'hôpital. Donc ça a été, disons, pas une difficulté, mais il a fallu jongler et trouver une place pour le travail de la ferme, plus celui de l'hôpital, tout en sachant aussi que j'avais déjà deux enfants. Donc la vie de famille, plus tout ça à gérer. Mais... en composant, on trouve de la place et ça a été.
D'accord. Donc, alors, votre boulot d'infirmière, ça vous prenait combien de temps, en fait, là ?
Alors, je travaille de nuit, mais à 80%. Donc, le fait d'être de nuit, déjà, on travaille en 10 heures, avec des grosses semaines et des petites semaines, ce qui fait qu'en fait, le fait aussi de ne pas trop dormir me laisse une amplitude derrière de travail... où je peux justement exercer le métier d'agricultrice derrière. Donc en fait, le matin, je dors, et puis l'après-midi, c'est beaucoup de gestion. Et puis, bah, je ne travaille pas toutes les nuits, donc c'est l'équivalent de 11 nuits à 12 nuits par mois, donc ça me laisse quand même du temps pour me consacrer aussi à l'exploitation.
Oui, enfin, quand même, c'est beaucoup, beaucoup de travail. Là, comment est-ce que vous faites pour concilier les deux, comme ça
Ouais.
Ça doit être très dur.
En fait, ça se fait, mais il ne faut pas oublier quand même une chose qui est très importante, c'est que mon père m'aide énormément. À la limite, c'est plutôt l'inverse. J'aide mon père. C'est-à-dire que il est maintenant quand même plus âgé, il a 76 ans, et il fait une grosse partie encore technique sur l'exploitation. Et moi, j'ai toute la gestion... tout l'administratif qui est quand même assez lourd sur l'exploitation. Donc c'est ma partie. Puis je viens aider beaucoup. Là, pour le coup, on est vraiment tous ensemble pour la moisson, par exemple, pour les grosses corvées comme ça.
C'est une exploitation de combien d'hectares, en fait ?
C'est 90 hectares et c'est uniquement des céréales. En fait, auparavant, il y avait des animaux, mais pour justement pouvoir conjuguer ces deux jobs, et pas avoir trop de contraintes dans le suivi quotidien. Du coup, j'ai arrêté l'élevage pour me consacrer uniquement aux grandes cultures.
D'accord.
Donc, comme ça nous laisse... Il y a des pointes de travail. C'est-à-dire qu'il y a les semis, il y a les traitements, et puis après, c'est le gros, c'est la moisson, et le travail de la terre, la préparation. Mais ça reste des moments où il y a des pics dans l'année, mais c'est pas tout le temps. Ce qui fait que, bon, par exemple, pour cet été, mes congés annuels de l'hôpital, j'essaye plus ou moins, c'est compliqué pour le coup, mais de les placer au moment de la moisson, tout en sachant qu'on est tributaire de la météo, donc c'est quand même à chaque fois un peu le hasard, mais j'essaye de faire comme ça, en tout cas.
Il a fallu vous créer un mental d'acier pour affronter tout ça, je suppose.
Ouais, c'est-à-dire qu'avant de prendre cette décision, il a fallu sous-peser tout.
Oui.
Déjà, savoir si au moment où je me suis lancée là-dedans, si le père des enfants suivait.
Oui.
C'est-à-dire au moins le temps de la formation. Je savais qu'après, il me l'avait dit clairement que lui, il n'aiderait pas du tout sur l'exploitation. Donc, je me lançais juste seule dans le combat. Donc, de ce côté-là, au moins, c'était clair. Ensuite, il a fallu faire une réunion de famille pour être vraiment sûr que tout le monde était OK sur ce projet-là, sur cette idée de reprise. Et puis, si, il y avait d'autres idées, voilà, on étudiait tout. Et au moment où tout a été vraiment évoqué et que la décision a été prise, alors oui, il a fallu foncer. Il a fallu foncer. Déjà, la première année, l'année de BPREA était quand même très intense. Et il a fallu fournir quand même beaucoup de travail. J'avais pas de place au rattrapage, par exemple, des modules à passer. Il fallait absolument que je valide tout. Et voilà. Et ensuite, oui, il faut du mental parce que rien que l'administratif, et c'est quelque chose de pesant qui peut vous freiner quand même dans vos ambitions. Parce que
vous qui avez découvert le monde de justement le monde de l'agriculture, l'administratif, comme vous dites, parlez-nous de ça, vous qui étiez novice. Comment est-ce que vous avez découvert ça et pris ça? Parce que en fait, c'est énorme, non, l'administratif?
Ah oui, c'est vraiment un temps qui est impressionnant. Enfin, ça représente, je dirais bien 20%. Si vous le faites pas, en plus, vous passez à côté de choses et vous pouvez travailler beaucoup et puis passer à côté de choses essentielles de bureau. C'est-à-dire que si vous faites mal certains dossiers ou des aides ou de la PAC, etc., il y a des formations obligatoires. Si vous ne les faites pas, en fait, vous passez à côté de certaines aides dont vous ne pouvez pas vous passer. Et vous pouvez, dans ce cas, travailler énormément pour compenser et ce n'est pas le sens. Donc oui, il y a une charge administrative vraiment importante. D'ailleurs, c'est ce qui a soulevé aussi les agriculteurs là récemment, ce poids où on nous en colle vraiment de plus en plus. Alors, on essaye d'alléger ce côté-là, mais c'est tout le contraire qui se passe.
C'est fou que nous soyons comme ça pris par l'administration, en fait, par le côté administratif. Ouais. C'est dingue, non?
Ouais, alors ça, cette problématique-là, je peux aussi la dupliquer au niveau de l'hôpital. En fait, nous, dans les soins, normalement, on est censé faire que du soin pur et un petit peu d'administratif, mais c'est tout le contraire aujourd'hui. Donc maintenant, tout est informatisé, etc. C'est censé nous faire gagner du temps. Or, il y a une traçabilité qui est là maintenant. Ça, c'est l'avantage, mais il y a une contrainte, il y a un temps fou au niveau de l'administration aussi. Et je ne sais pas si c'est valable dans tous les métiers, mais en tout cas, dans ces deux-là, c'est le cas. C'est le cas. Alors là, on va passer, par exemple, pour l'agricole, à la facturation électronique et tout ça. Enfin bon, ça va devenir complexe. Oui, c'est-à-dire qu'il faut, dans ce métier d'agriculteur, il faut vraiment être polyvalent et bon dans tous les domaines. Il faut, faut être un vrai couteau suisse, quoi.
Ouais, vous avez dû. Et au milieu de tout ça, alors, vous arrivez quand même à concilier votre métier d'infirmière?
Alors, je fais le planning. Disons que je fais mon 80% tous les mois. Et puis après, j'essaye de caler justement les rendez-vous agricoles en fonction de mon planning. Mmh. C'est plus dans ce sens-là. Alors, pour l'administratif, c'est facile de faire comme ça. Après, pour tout ce qui est technique, le travail pur, le travail de la terre, etc., on est contraint par la météo, par les saisons, etc. Donc ça, par contre, quand vous avez une fenêtre météo, vous ne pouvez pas la rater. Donc là, il faut y aller. Vous devez la saisir, parce que surtout avec le dérèglement climatique d'aujourd'hui, si vous la ratez, vous risquez gros, quoi. Et par exemple, l'année dernière, ça a été le cas avec une météo capricieuse pour la moisson.
Oui.
Certains agriculteurs n'ont pas pu finir leur moisson à temps. Et du coup, si vous ratez ce coche-là, après, ça a été des semaines de pluie. Ils ont raté leur travail de moisson. Mais le travail de la moisson, c'est le travail de l'année. C'est la seule rentrée d'argent. Donc là, c'est une perte considérable. Donc effectivement... quand c'est comme ça, je dors moins, donc c'est un petit peu au détriment, on va dire, de mon sommeil. Je fais le tampon, quoi. Après, je me dis que plus tard, je pourrais me reposer, mais en général, s'il y a des moments, il y a des pics, il faut être là, je suis là.
Et votre frère, dans tout ça, en fait, il est il est resté invalide ou il a repris un peu du poil de la bête?
Alors, il a un mental d'acier, déjà.
Oui.
Et malgré donc, sa vie qui a basculé à l'âge de 20 ans, donc il est aujourd'hui en fauteuil, il est stabilisé, donc il n'y aura aucune amélioration prévisible. Il est stable, en fait, depuis... il a eu son accident à 22 ans, et à 20 ans, et à 22 ans, on a considéré qu'il était stabilisé, qu'il n'y avait plus rien à attendre. Donc aujourd'hui, il se déplace avec un fauteuil, il arrive à se déplacer avec un vélo tricycle.
Oui.
Et en fait, c'est un amoureux de la terre, du métier agricole. Donc, quand il peut, s'il peut, et en fonction de sa fatigabilité, il participe aussi au labour des tâches un petit peu où il n'y a pas de risque non plus pour lui, quoi. Parce qu'une fois qu'il est assis en fait dans un tracteur ou un gros véhicule,
ça va. Oui.
Comme ça, voilà, il peut faire des choses et il fait des choses et il est content de les faire et faut pas que ça devienne une contrainte, mais s'il peut se faire plaisir un petit peu en participant, tant mieux, quoi. Donc c'est comme ça, on essaye de serrer les coudes un peu dans la famille pour de manière à préserver ce patrimoine le plus longtemps possible.
Comment vous allez aujourd'hui? Ça fait maintenant presque 5 ans, hein, presque 6 ans, c'est ça?
Oui, c'est ça, j'ai repris le 1er janvier 2019.
Et alors, comment vous vous sentez en fait? Vous arrivez à équilibrer l'exploitation et d'abord, tout roule en fait au niveau de l'exploitation?
Alors, l'exploitation, il n'y a rien de linéaire dans une exploitation agricole.
Oui, c'est jamais figé.
C'est la grande problématique.
Oui.
Vraiment, c'est les montagnes russes. Financièrement, en tout cas, c'est les montagnes russes. On a une année exceptionnelle, mais sur mes 5 ans, j'ai eu qu'une année exceptionnelle. C'est la fameuse année où il y a eu la guerre en Ukraine. C'était la première année, en tout cas. Et là, les prix, le cours des céréales a flambé, ce qui fait qu'on n'a jamais connu des prix comme ça de vente. Donc, ça a été une année exceptionnelle, mais tout a explosé aussi. Les charges ont explosé, etc. Donc, vous n'êtes pas habitué à ce qu'il y ait autant de recettes, mais derrière, il y a tout qui suit aussi, les charges, etc., de la NSA, tout explose. Et derrière, vous avez une mauvaise année. Cette année, elle s'annonce mauvaise, d'ailleurs. Donc, il faut vraiment s'adapter aux aléas. Et c'est surtout des aléas. Il y a deux aléas vraiment principaux dans l'agricole, c'est les aléas climatiques et les cours mondiaux, donc la situation géopolitique. C'est vraiment les deux aléas qui font que l'année peut être bonne ou pas. Alors, c'est-à-dire que, effectivement, si vous n'avez rien à vendre parce que vous avez pris une averse de grêle ou quoi, c'est plié.
Oui.
Mais si jamais vous arrivez à récolter et que les cours ne sont pas bons, comme ça a été le cas l'année dernière, et comme c'est le cas où ça a tendance à remonter un petit peu, comme je vous dis, c'est vis-à-vis de la conjoncture géopolitique. Donc, en fait, quand vous produisez, c'est ça aussi qui est incroyable, c'est quand vous semez votre blé, par exemple, vous ignorez au bout de la chaîne à quel prix vous allez le vendre. Mm-hmm. Vous n'êtes pas décideur du prix.
C'est-à-dire oui, c'est ça, mais comme le lait.
Vous savez combien...
Oui.
Ouais, c'est ça.
Oui.
Vous savez combien il vous coûte à produire, mais vous ne savez pas combien vous allez vendre et vous n'avez pas le choix du prix. C'est ça aussi. C'est que le prix, c'est des cours mondiaux, donc c'est au niveau de la bourse et vous devez à vous d'être un bon économiste et avoir le nez fin et être le plus judicieux. Essayer de vendre vos céréales au bon moment et là, ça n'a pas toujours été le cas en ce qui me concerne. Donc, il y a un effet ciseau parce que vos charges sont restées élevées, vous vendez mal, et puis, ça peut vite... en fait, la situation peut vite basculer. Quoi. C'est un métier avec beaucoup d'aléas, vraiment. Il faut anticiper les problématiques, mais parfois, vous ne pouvez même pas les anticiper, c'est ça le problème. C'est que vous avez beau faire du bon travail, vous travaillez le mieux possible, techniquement parlant.
Oui.
Mais si les prix ne sont pas là, de toute façon, votre blé, il peut être beau et avoir du rendement. Si vous le vendez au mauvais prix,
Vous avez décidé d'arrêter les vaches, hein. L'élevage,
oui.
C'est...
Ouais. Oui. Non, c'est, enfin, à regret, parce que à la base, mes parents, c'était une ferme polyculture élevage. C'est la meilleure boucle, en fait, qui puisse exister sur une exploitation. C'est-à-dire que l'élevage, donc là, vous faites la laitant, c'est-à-dire que la vache fait son petit, le petit, vous l'engraissez, vous le vendez. Et vous nourrissez vos bêtes avec vos céréales, vous avez votre paille que vous produisez, etc. Et les vaches, donc vous les vendez pour la viande. Et puis aussi, bah, il y a du fumier que vous répandez sur vos cultures et la boucle est parfaite. Mmh. Et donc, il a fallu arrêter l'élevage par rapport aux contraintes, malheureusement, du quotidien, où il faut être là tous les jours, il faut les surveiller tous les jours. Et puis il faut aussi, enfin c'était un problème pour moi, mais parce que j'habite loin de la ferme, mais c'était aussi pour ne pas créer de charge à mes parents au moment pour la surveillance de ces animaux-là, parce que bah, en vieillissant, faut savoir manipuler les animaux, vous pouvez vous faire bousculer, c'est dangereux mine de rien et c'est beaucoup trop de contraintes, donc je voulais alléger, simplifier au maximum le système. C'est pour ça que voilà, je suis arrivée aujourd'hui à faire que de la grande culture.
Très bien. Et donc, au niveau de votre boulot, d'infirmière de nuit, en fait, comment ça se passe ?
Alors, je travaille donc en 10 heures. Je commence à 21 heures, je termine à 7 heures. Et c'est un service, de médecine gériatrique, pour faire court. Et j'ai un autre secteur, c'est un secteur fermé où je m'occupe de patients déments. Et avec moi, j'ai deux aides-soignantes. Donc, nous avons notre petite organisation de nuit avec nos tâches bien précises, les tours à faire, etc., les surveillances, les traitements à donner, les traitements à préparer pour la journée, un peu l'administratif aussi, on y revient. Et puis aussi gérer des cas où ils peuvent décompenser la nuit, où vous êtes seul, et prendre des décisions. En fait, dans ce sens, c'est un petit peu la même chose que le métier d'agriculteur, c'est-à-dire que vous devez prendre des décisions, faire des choix, et des bons choix, et rapidement. Et donc, en ça, ils se rejoignent. Et donc, voilà, en gros, mon métier d'infirmière, j'exerce depuis donc maintenant 22 ans. Et j'ai travaillé essentiellement de nuit.
Essentiellement de nuit, en plus, ouais. Mais
ouais.
C'est pas trop dur, en fait. C'est une chance, finalement, de travailler de nuit ?
Alors, c'est un choix, quand même, faut le dire. J'aime déjà le travail de nuit parce que je peux gérer mon organisation, je fais mon travail, mais voilà, il n'y a pas de sollicitation autant que le jour où il y a les familles, il y a toute une grosse équipe, les médecins, tous les intervenants sont là, donc l'infirmière est quand même au milieu de tout ça et c'est souvent elle qui est sur lequel on vient tirer la blouse, on va dire, pour toutes les demandes, elle est très sollicitée. Donc c'est vrai que de nuit, on est un peu épargné de ce côté-là. Donc là, j'aime bien ce côté plus calme, moins bruyant, moins sonore, etc. Et j'aime le travail de nuit parce qu'en fait, maintenant c'est différent, les roulements ont changé, mais travailler en 10 heures, je trouvais que c'était un bon compromis. Ça me laissait quand même beaucoup de temps derrière la journée pour m'occuper des enfants notamment. Et ensuite, ça m'a permis aussi de pouvoir exercer un autre métier. Donc dans ça, je trouve mon compte. Après, ça me laisse du temps, mais physiquement, c'est difficile. Le rythme est difficile à tenir. C'est fatigant, vraiment fatigant. C'est une fatigue qui n'est pas la même que la fatigue de la journée ou après une corvée, vous allez vous coucher, vous êtes fatigué, vous dormez bien, ben vous ne récupérez pas du tout de la même manière. C'est une contrainte pour l'organisme.
Oui, je me doute, oui. Ça doit être terrible.
Mmh.
Vous m'avez parlé, vous avez des enfants en fait, hein ?
Oui, j'ai trois enfants.
Ils ont quel âge, ces enfants ?
Alors, j'ai deux filles et un garçon, 15 ans, 11 ans. Et 6 ans.
Et comment ça se passe pour eux, en fait, le fait que vous soyez très occupée comme vous l'êtes ?
J'essaye de compartimenter. et de d'être là quand même pour eux, hein, qui n'aient pas à subir en fait mes choix quelque part. Alors le travail de nuit, si je leur pose clairement la question, est-ce que vous préférez que maman travaille de jour ou de nuit, ils vont me dire que je préfère me voir travailler de jour. Bon, alors j'essaye de défendre mon dossier en leur disant que ça me permet d'être là à la sortie d'école, de gérer les devoirs, d'être là au moment du coucher, etc. Bon. Et puis, bon, après, le fait de travailler de nuit, les enfants, on leur apprend plus que d'autres enfants, je pense, à être autonomes, à savoir se gérer pour être prêts pour l'école, aller à l'école, gérer les devoirs. Ils doivent s'autonomiser plus vite que les autres. Donc, bon, ils ont... Mais étant donné qu'ils m'ont toujours connu comme ça, à travailler de nuit, c'est quelque chose qui est ancré et ça pose pas de soucis.
Bon, vous êtes une femme heureuse, ma chère Karine.
Oui, 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 mais j'aime bien aussi avoir des gros plannings bien chargés. C'est-à-dire que si j'ai des moments où c'est un peu la calmie, je vais chercher à faire autre chose. Donc,
vous arrivez à avoir tout de même des loisirs ?
Oui, et quand c'est le moment des loisirs, c'est vraiment le moment des loisirs. C'est-à-dire que vraiment, j'essaie de chaque chose, j'essaie de les faire en étant à 100% et pleinement. Donc là, c'est plutôt des week-ends. En fait, j'arrive plus vraiment à partir une semaine à l'étranger ou au soleil, ou je ne sais quoi. Là, c'est un peu plus compliqué quand même à gérer par rapport au planning de l'hôpital et celui de l'exploitation. Et aussi des enfants, puisque je suis aujourd'hui séparée du père et on est en garde alternée, donc si ça tombe sur ma semaine où j'ai des enfants, c'est vrai que c'est bloquant. Donc il y a beaucoup de paramètres en fait qui font que j'ai peu de possibilités de partir, par exemple une semaine en hiver au ski ou je ne sais quoi. C'est difficile de trouver le bon créneau. Mais en tout cas, les week-ends, tout ça, voilà, j'ai un week-end sur deux, trois. Donc j'essaye de profiter des moments de pause pour en faire bénéficier les enfants déjà, et puis breaker et changer de cadre aussi.
Oui, et vous y arrivez quand même, oui.
Oui, oui, même si c'est des petites pauses, hein, des fois on peut pas, on se passe qu'une après-midi, un bout de soirée, mais c'est des petits moments que j'essaye de renouveler le plus possible, mais qui sont nécessaires, et c'est ça qui me requinque, qui me rebooste pour continuer sur ce rythme-là. Mm-hmm. Mais là, aujourd'hui. Disons que j'ai quand même, vraiment, j'insiste, hein, j'ai quand même mon père qui fait beaucoup et c'est lui le héros.
Bon, mais vous êtes une héros aussi, ma chère, vraiment, de cumuler tout ça et de vous battre. Merci mille fois pour votre témoignage ce soir sur l'antenne d'Europe 1. Et puis, je vous souhaite plein de courage encore, bien évidemment.
Merci.
Et on vous embrasse bien fort. Merci, Karine.
Merci, Olivier.
Bonsoir. Vous souhaitez écouter encore plus de témoignages riches et bouleversants ? Retrouvez-moi chaque semaine dans le podcast « Dans les yeux d'Olivier ». Je pars à la rencontre d'hommes et de femmes aux vies extraordinaires qui ont accepté de me confier leurs histoires les plus intimes. Un podcast gratuit, disponible sur toutes les plateformes d'écoute. Alors je vous dis à très bientôt.